Seigneur, nous prions que tu parles aux églises et à chacun de nous, et que nous ayons tous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, et pour garder ce que nous avons. Comme tu as dit, le temps est proche. Bénis cette conférence. Amen. La fin est vraiment à l'angle. Nouvel an arrive. C'est impressionnant comme le temps vole, le temps fuit. C'est pour ça qu'on doit le racheter. Chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Alors, quand le Seigneur revient, on ne le regrettera pas. Il est bon de revenir à Apocalypse 1 à 3 parce que c'est vraiment le fardeau du Seigneur dans son cœur. C'est pour ça qu'il commence avec ces trois chapitres-là. Le reste des chapitres est principalement sur le jugement de ce monde. Et on n'a pas envie d'être jugé avec le monde. Est-ce que vous voulez ça? Donc si on ne veut pas, alors on doit faire attention à ce que le Seigneur dit aux églises. Parce que c'est ce qui est dans son cœur. Souvenez-vous de Éphésiens 5, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que c'est ça? Dieu aime le monde? Non, il dit, Dieu a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Seigneur, pardon. Et il veut quoi comme Église? Une Église glorieuse. Éphésiens 5, 25. Il veut une Église glorieuse. Sans défaut, sans ride, sainte, sans défaut. Où trouves-tu aujourd'hui une telle église? C'est très difficile. Qu'en est-il de la Corée? Très difficile. Une église glorieuse, sans défaut, sans ride. Qu'en est-il de l'Afrique? On doit se poser la question, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? Quelle sorte d'église est-ce que l'on bâtit? C'est une question sérieuse. Que le Seigneur est notre époux. Il va pas juste marier n'importe qui. Tu n'es pas encore marié, est-ce que tu vas juste prendre n'importe qui dans la rue? Non, tu dois être très très précis dans ton choix. Tu dois choisir quelqu'un que tu aimes vraiment, pas juste n'importe qui. Et pas juste l'extérieur. Parce que l'intérieur est plus important que l'extérieur. L'extérieur ne signifie pas grand-chose. Après 10 ans, il change. Mais ce qui est à l'intérieur est plus important. Regardez le Seigneur. Cherchez pas des églises immenses, Quand le Seigneur était sur cette terre, est-ce qu'il recherchait le nombre? Combien en a-t-il vraiment choisi pour son plan? 1248. 1224. Non, 12. Et un a été éliminé et remplacé par Matthias. Peut-être Paul. On ne sait pas. Ça dépend du Seigneur. Et ces 12 sont devenus les 12 pierres fondatrices de la Jérusalem céleste, de ce que Dieu veut bâtir aujourd'hui. Ne crois pas que le Seigneur, pour son bâtiment, va juste prendre n'importe quelle pierre dans la rue. Mais quel type de pierre est-ce que tu bâtis ta maison? En Californie, on bâtit avec du bois. Excellente idée pour brûler. C'est pour ça qu'on a des incendies en Californie. On doit bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Je me demande combien d'entre nous est-ce que les saints sont si précieux pour toi, comme des pierres précieuses? Et combien d'or est-ce qu'on a? Qu'en est-il du Vietnam? Quelle sorte de d'église est-ce que tu peux trouver là-bas? Qu'en est-il de l'Arizona? On doit se demander et demander au Seigneur quelle sorte d'église est-ce que tu veux? Sais pas ce qu'il a reçu, mais c'est pas fait de bord. C'est pour ça que la dernière épître, au chapitre 3, le Seigneur dit, viens à moi et achète de l'or, pas juste n'importe quel or, mais un or éprouvé, purifié. Tu ne veux pas acheter de l'or qui n'est pas pur. Maintenant, dans ce monde, il y a tellement de fausses choses. Tout est faux. À l'extérieur, ça a l'air bien. Mais en fait, c'est corrompu. Y a même des faux présidents, des fausses élections. C'est difficile aujourd'hui de trouver des choses qui sont vraies. Tout est faux. Même l'université de Harvard est devenue fausse. Il y a des faux présidents. C'est vraiment fou. En particulier, maintenant, c'est le temps où on vit aujourd'hui. C'est un signe que le Seigneur revient bientôt. Vraiment. Comme on a chanté, tous les six points vers une fin. On peut vraiment réaliser que peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, tout pointe vers une fin. On ne peut jamais revenir en arrière. Le temps va en avant. Mais est-ce que si nous, les chrétiens, on recule, c'est mauvais signe. On doit aller plus loin. Il n'y a pas d'autre moyen d'avancer que d'aller devant pour rencontrer notre époux, le Seigneur des Seigneurs, pour être préparé pour sa venue. C'est pourquoi Apocalypse 1 à 3 est si important pour nous. C'est pas que les autres chapitres sont pas importants, mais ce qui est le plus important pour le Seigneur, c'est les églises. Souvenez-vous, le livre d'Apocalypse est différent de toutes les épîtres. Les différents parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Les épîtres sont beaucoup écrites par Pierre, par Paul, ensuite Jude, Pierre. C'est écrit par les apôtres. Mais ce livre d'Apocalypse est une révélation donnée directement par Dieu. Qui nous parle directement maintenant. Il y a trop d'hommes qui parlent aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a tellement de fausses doctrines, faux enseignements. On doit discerner ce qui est vrai ou non. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Dieu lui-même a donné cette révélation au Seigneur Jésus. Même Jésus lui-même a reçu cette révélation directement de Dieu. Quand est la dernière fois que tu as eu une révélation directement de la part de Dieu? Peux-tu même te souvenir? Ne désires-tu pas entendre l'entendre parler? On a tous l'habitude d'écouter des hommes qui parlent. Désolée pour cette conférence. J'espérais ne pas avoir à parler. Mais le Seigneur parle au travers des frères. On a besoin de sa parole directe. C'est pour ça que, en particulier, l'apôtre Jean dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction vous enseigne toujours. Toute chose, l'onction que vous avez reçue de lui, il n'y a point de mensonge en elle. Et il faut l'écouter pour demeurer en Dieu. Dieu parle. Qui peut connaître ta volonté? Peut-être un petit peu, mais c'est pas assez. Il y a tellement à savoir. C'est pour ça qu'il dit que le Père de gloire donne un esprit de sagesse et de révélation. jusqu'à la complète connaissance de lui. Est-ce que tu sais toute chose sur sa création? Pourtant, tu voyages tellement, est-ce que tu sais toute chose sur l'Afrique? Même l'Afrique, tu ne connais pas en entier. Comment tu peux connaître Dieu qui a tout créé? Ma question aujourd'hui est, est-ce que tu peux le connaître aujourd'hui? Est-ce que tu t'en fiches? Est-ce que tu as ou est-ce que tu as un cœur qui cherche? Comment pourrais-tu connaître Dieu si tu ne connais, si tu ne lis pas la parole? Jean nous dit toute la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si tu pries seulement au Seigneur Jésus et pas au Père, est-ce que tu parles à l'Esprit? Les apôtres souvent ont écrit que la grâce et la paix soient avec vous. Sais pas quel verset. Voilà, Apocalypse 1, verset 4. Et que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit. As-tu dit bonjour au Seigneur ce matin? Vraiment? Bon, t'es spécial. T'es très spécial. Est-ce qu'il t'a salué? C'est pas de Pierre, Paul, Jude, Jean. Mais du Dieu trinitaire lui-même. C'est pour ça que je dis que ce livre est particulièrement spécial. Spécial dans le sens où Dieu parle lui-même. Il te parle directement. Parce qu'il vient. Bien sûr, il a utilisé Jean. Souvenez-vous, Jean, le dernier à cette époque, Kephas, il est probablement écrit en l'an 90 ou l'an 5, 90 ou 95. Et Jean avait probablement au moins 90 ans. 90 ans. C'était le plus jeune. Était le plus jeune quand le Seigneur l'a appelé et il est le plus âgé qui est resté vivant. Et il a été fidèle jusqu'à la fin. Qu'en est-il de toi et moi? J'ai vu tellement de personnes fidèles quand elles étaient jeunes. Après 10 ans, elles sont loin. Et certaines après 20 ans. Certaines même après 40 ans. Et le Seigneur Jésus est appelé comment? De Jésus-Christ, le témoin fidèle. À quel point es-tu fidèle et à quel point suis-je fidèle? Au début du verset 5. Partout où il va, il suit l'agneau partout Oui, bah. Ça, c'est la caractéristique de ceux qui sont fidèles. Ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Peut-être qu'il prend une direction que tu n'as pas envie de suivre. Qu'est-ce que tu ferais, mon chat? Je ne suis pas si sûre que tu le suivrais. On va attendre qu'elle t'en vienne. Être fidèle n'est pas si simple. Les gens étaient fidèles. Où était-il quand il a eu cette vision? Dans sa chambre, à genoux. Il était en vacances à Patmos. Il était en exil. C'était un endroit terrible, pas un bel endroit. Je ne sais pas d'où il avait sa nourriture. Seul. Dans une situation très difficile, peux-tu être fidèle dans une telle situation? Est-ce qu'il n'aurait pas eu des raisons de dire, Seigneur, j'ai été fidèle à toi toutes ces années. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu me laisses dans cette situation? C'est tellement dur. Est-ce que c'est comme ça que tu me remercies d'avoir été fidèle? On serait en train de murmurer. Qu'en est-il de Paul dans sa prison? Seigneur, on a fait ta volonté et puis tu nous mets en prison. Non, qu'est-ce qu'il faisait en prison? Il priait, il chantait. C'est ce que tu aurais fait en prison? Et toi, Manuel? Je ne sais pas ce qu'on ferait si on était en prison. Juste Emmanuel, même moi aussi son grand-père. Qu'est-ce que je ferais en prison? Qu'est-ce que je ferais? Je demanderai au Seigneur, mais moi je suis là. Jean, le témoin fidèle. Tu crois que le Seigneur aurait donné une telle révélation à un serviteur infidèle? Est-ce que tu crois ça? Si on veut plus de révélations, alors on doit être des serviteurs fidèles. Alors le Seigneur nous donnera une révélation. Mais si tu n'es pas fidèle, alors tu ne verras rien. C'est pourquoi, de manière très raccourcie, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, pas seulement à Jean, mais Dieu cherche les serviteurs fidèles. Il ne peut pas y avoir que Jean qui est un serviteur fidèle. Dieu en cherche d'autres. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Son serviteur fidèle, Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu. Ne partage pas les choses que tu n'as pas vues. Ne donne pas un message théologique, une interprétation de la Bible. Alors, tu ne saurais pas si tu dis les bonnes choses. Un témoin et un martyr, c'est le même mot. Je l'ai déjà mentionné. Qu'est-ce que ça signifie d'être un martyr? Aujourd'hui, si tu dis la vérité, tu finis en prison. Si tu mens, tu es récompensé. Est-ce que c'est pas vrai dans ce pays? Est-ce que si tu te lèves pour la vérité, ils vont te persécuter jusqu'à la fin? Si tu dis la vérité, tu vas être martyr. Un témoin est celui qui dit la vérité. Mais qui est la vérité? Pas juste quoi, mais qui est la vérité? C'est ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tes mains ont touché au sujet de la parole de Dieu. Comme Jean 1. Il n'interprète pas la Bible. Mais Jean est un apôtre fidèle. Il a entendu tant de choses directement de la part de Jésus. Ses mains ont touché. Il était l'apôtre bien-aimé. Il était à chaque étape de là où le Seigneur est allé. Et donc, c'est pas son interprétation. C'est pas son interprétation. Mais c'est très précisément ce qu'il a vu, entendu et touché. Où trouve-t-on un tel serviteur aujourd'hui? Tu veux être un serviteur aujourd'hui? Alors, sois un tel serviteur, sois fidèle à la parole de Dieu. Il a été fidèle à la parole de Dieu. Si tu veux voir ça, il faut aller dans 1 Jean 1, 1 à 4. Et tu dois connaître l'onction. Parce que il va te révéler beaucoup de choses. Le témoignage de Jésus-Christ. Quel était le témoignage de Jésus-Christ quand il était sur cette terre? C'est-à-dire dans cette vie humaine. Il a exprimé Dieu. Il disait pas une chose, il faisait autre chose. Comme beaucoup d'entre nous. Le message, tu vas à la maison et tu deviens une autre personne. C'est pas le témoignage de la parole vivante de Dieu. Il a témoigné de Dieu dans chaque situation où il était. Il n'a pas juste enseigné au sujet de Dieu, mais il a exprimé Dieu par sa conduite partout où il allait, par sa vie humaine. Ça, c'est le témoignage de Jésus. Lui-même était un témoignage. C'était le serviteur fidèle de Dieu. et du témoignage de Jésus. Toutes les choses qu'il a apprises au sujet de tous les séminaires théologiques où il a été. C'est ça le verset. Mais toutes les choses qu'il a eues. Ce que tu as déjà demandé, Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce que tu as vu? Seigneur, retire tous les voiles qui couvrent mes yeux. Sauve-moi de mon aveuglement et de ma surdité. Je veux voir, je veux pas être aveugle. Comment peut-on être témoin si on ne voit pas? C'est pas suffisant de juste entendre ce que disent les gens. Et celui qui lit quoi? Les livres? Les hommes ont tellement de livres. On a tellement d'études. Est-ce que tu lis tellement d'études? Non, la parole de cette prophétie. Et garde les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. On n'a pas de temps à gaspiller. C'est très important. Venir au temps. C'est pas le moment de venir aux interprétations des hommes, mais les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que sous ces choses, aucun livre, je m'en fiche qui ils sont, quel est leur nom. Aucun livre ne peut remplacer la Bible. La parole vivante de Dieu. Les interprétations des hommes ne peuvent pas remplacer la parole de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu va te donner une Bible que tu ne peux pas comprendre? Dieu n'est pas stupide comme moi. Dieu est le plus sage, rempli de sagesse. Il va pas te donner un livre que tu ne peux pas comprendre. L'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de sagesse et de révélation. Et si tu ne comprends pas, alors tu demandes. Alors demande à l'esprit, c'est l'esprit de sagesse. Si tu as eu un manque de puissance, de force, alors demande à l'esprit, c'est l'esprit de force. Tu dois aussi avoir l'esprit, un esprit de crainte de l'Éternel. Sans crainte de l'Éternel, c'est dangereux de vouloir connaître la Bible, parce qu'après, tu fais ta propre interprétation, tu crées une méga church et puis tu deviens millionnaire. Ne crois pas que ce soit facile d'être un serviteur de Dieu. Rien n'est simple. Que veux-tu étudier? Est-ce que c'est facile? Alors, pourquoi étudies-tu? pas besoin d'étudier. Pourquoi tu étudies? Pas parce que c'est facile. C'est un challenge. Vraiment difficile. Et qu'est-ce que tu étudies? Ingénieur. C'est le pire. C'est le plus dur. C'est pour ça que je dis que c'est le pire. Moi te dire, c'est facile d'être un serviteur de l'Éternel. Tu veux en être un? Le Seigneur. C'est encore plus difficile que de devenir un. Et tu dis bien, parce que en tant qu'ingénieur électrique, si tu fais mal, tu vas t'électrocuter. C'est dangereux. Mais ne crois pas que ce soit simple d'être un serviteur de Dieu. Non. Tu crois que pour le Seigneur, c'était facile de vivre sur cette terre? Personne qui dit la vérité ne sera populaire. Et les hommes ne veulent pas entendre la vérité. Son serviteur, son témoin fidèle, béni. Verset 3. Apocalypse 3, 1-3, c'est béni en anglais. Il y a beaucoup de livres, s'il vous plaît, ne lisez que le livre. Aucun ne peut remplacer le livre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Non, n'écoutez pas juste n'importe quoi. Beaucoup de chrétiens écoutent juste n'importe quoi. En particulier, cette prophétie. Et gardez-la. Pas juste l'entendre, mais ça veut dire la faire, la suivre. Tout ce que dit cette prophétie. Car le temps est proche. Et là, au verset 4, on a les salutations du Dieu Trinitaire. C'est la première fois qu'il est mentionné. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est peut-être déjà mentionné dans l'Ancien Testament, mais là, c'est la première. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul qui n'ait jamais pensé à ça. Est-ce que tu as déjà pensé à ces trois noms? Celui qui est, qui était et qui vient. Qui est, qui était et qui vient. Il est le je suis. Il est toutes les dimensions du verbe être. J'ai pas le temps ce matin de trop partager à ce sujet parce que c'est pas le sujet principal, mais pensez-y. Toutes ces choses du passé, Dieu les connaît. Quand as-tu été sauvé, George? En 1966, je crois. Pas avant la fondation du monde. Tu vois, il n'est pas allé suffisamment dans le passé. Tu as demandé à Jean, où étais-tu quand j'ai fondé le monde? On était déjà choisis avant la fondation du monde. Autrement, on ne serait pas là. Paul dit, j'étais déjà choisie dans le ventre de ma mère. Quand est-ce que le Seigneur t'a choisi pour être là aujourd'hui? Dans le ventre de ta mère, tu avais déjà été choisie. N'es-tu pas heureux de ne pas être née dans une famille un peu bizarre quelque part? Es-tu heureux, oui, très reconnaissant. Que Dieu savait déjà toute chose dans le passé. Paul dit qu'il était déjà choisi, appelé dans le ventre de sa mère, et ça a été le bon plaisir de Dieu de se révéler à lui. Ne crois pas que ce soit par accident, rien n'est par accident. Pourquoi es-tu venu à Los Angeles, en Californie? Pourquoi? Est-ce que ce n'était pas le plan de Dieu que tu rencontres Simon ici? Ça a l'air d'un accident, n'est-ce pas? Jamais j'aurais pensé que je serais une sorte de serviteur du Seigneur. Je n'étais pas allée en Allemagne pour ça. J'y étais allée pour faire autre chose. Mais le Seigneur m'a appelée. Que puis-je faire? Est-ce que c'était un accident? Quand tu es venue en Europe, quand mon frère Georges est venu en Europe, il m'a dit, je m'envoie vers toi. C'est pour ça qu'on est allé en voiture et pas en avion. Le Seigneur m'avait dit, je l'envoie. Sur tes genoux, ça doit être une expression en anglais, je pense. J'avais pas planifié ça. Mais il est le Dieu qui était. Il connaît déjà le passé. Il a créé tout l'univers. Tout est arrangé par Dieu. Les choses ne se passent pas juste. On a besoin de voir le Dieu tout-puissant et celui qui sait, qui est. Crois en Dieu et confiance en Dieu. Aie confiance pour là où tu dois aller. Déjà avant que tu sois né, il savait. Donc, fais-lui confiance. Amen. Il sait le mieux. Il sait le futur. Ne t'inquiète pas pour ton futur. Je m'inquiète pas pour mon futur. Bien sûr, on sait tous, on veut hériter le royaume. Et confiance en lui. Amen. connais le futur. Est-ce que toi, tu connais le futur? Mais... Dieu sait toutes choses. Il a tout préparé. Je ne suis pas inquiet. Tu vas avoir une Mercedes-Benz ou pas? Je pense pas que j'aurai une Mercedes. Laisse-moi te dire, tu as besoin de connaître ce merveilleux Dieu, le grand Je suis. Il demande, ah, qu'est-ce que je dirais aux gens qui m'a envoyé? Le Seigneur lui a dit, je suis. Je suis. Amen. Je suis. Je connais un frère dont le nom c'est Hou. Son nom c'est Watt. Pas Hou. Et alors? Que les gens lui demandent quel est ton nom? Répond quoi? Puisque la signification de son nom. C'est pas un bon nom. What? Je suis. Soit dans le passé. Il est. Ah, mais il n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce merveilleux Dieu. Pas de début et pas de fin, comme il dit dans Hébreu. Il est le Fils de Dieu. Sans début. De jour. Il est éternel. Quel Dieu magnifique. Personne d'entre nous ne sait ce qui va se passer demain. Parce qu'on n'est pas Dieu. Mais on croit en un tel Dieu. Pardon, ne pas te parler de ça. Mais j'aimerais parler premièrement des chandeliers d'or du sacerdoce. Parce que ce chapitre est au sujet du sacerdoce. On ne voit pas le mot de sacerdoce. Mais où est le chandelier? Il est dans le lieu saint. Qui y entre? On voit que puisque les chandeliers sont uniquement dans le lieu très saint, que celui qui est au milieu des chandeliers, ben en fait c'est le saint, souverain sacrificateur, et c'est le seul qui entrait. Il le faisait pour le rachat. Et le souverain sacrificateur devait y aller dans le lieu saint. Pour le ranimer le chandelier. Il y a tellement d'églises différentes. tellement de dénominations, tant de sortes différentes. Mais les chandeliers d'or, il y a quelque chose de très spécial. C'est quoi une église? C'est pourquoi, dans ces chapitres, on voit que les églises sont les chandeliers d'or, que le Seigneur ouvre nos yeux et éclaire les yeux de notre entendement pour nous montrer exactement ce que Pierre dit au sujet de la maison spirituelle et le sacerdoce. Ça, c'est un chandelier. Est-ce que c'est clair? Ok, alors on peut arrêter la réunion. Si c'est tout clair. Ça, c'est la vision que le Seigneur nous donne. C'est pas juste une église. Ah, dimanche, je vais à l'église. Quelle église? Certains disent, ah, je viendrai à ton église. Pas notre église. C'est un chandelier d'or dans un lieu saint. Un sacerdoce royal et saint. C'est un lieu. C'est pour ça qu'on a besoin du souverain sacrificateur. Aaron est le souverain sacrificateur. Est-ce que tu peux avoir une nation sans président? Un faux, bien sûr. On a besoin d'un souverain sacrificateur. Et il a été donné par Dieu. C'est selon l'ordre de Aaron, mais en fait, ça, c'est que une image dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ n'est pas seulement notre sauveur, mais il est notre souverain sacrificateur. Souvenez-vous dans Hébreux, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, roi de paix. Ces deux choses sont vraiment cruciales. C'est pas la justice d'après notre propre standard, c'est la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Pas d'après ton propre standard. Je ne veux pas être trouvée dans ma justice, selon ma propre justice, mais dans celle de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça, dans la vie de l'Église, ne pense pas qu'on fasse les choses là, parce que je pense, on fait pas les choses parce que, oh, moi je pense que ça c'est bien. Puis après l'autre frère vient, puis il dit, ah non, moi je pense que c'est mieux comme ça. Ça va pas. C'est pas la justice. Mais ce magnifique souverain sacrificateur sert dans la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant. Grand souverain sacrificateur. C'est pour ça au chapitre 1, on a directement le Fils de l'homme, le souverain sacrificateur qui marche au milieu des chandeliers. Très différent de celui qui est décrit dans Hébreux, qui est dans les cieux et qui intercède pour toi. Il va t'aider avec tous tes problèmes parce que lui-même est passé par là. Et on est là, oh Seigneur, merci beaucoup, j'ai déjà tellement de problèmes et tu m'aides. Mais là, c'est un aspect très différent. Et une vision nouvelle. Est-ce que tu réalises que parmi les églises, marches, souverains, sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, on n'a pas tellement conscience de ça et du coup, ben, on fait un peu ce qu'on veut. Oh, ça me plaît pas, alors au revoir et puis je m'en vais. Est-ce qu'on fait ça? Or, c'est tout compliqué, alors je dis au revoir et je m'en vais. On est tellement léger, on fait ce qu'on aimerait parce qu'on ne sait pas. Et ce souverain sacrificateur est au milieu de nous. Si on avait plus cette conscience, alors on serait différent. Je me retournais verset 12, Apocalypse 1, 12. Le Seigneur a parlé directement à Jean et pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retournée, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un, Jésus-Christ, qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ça, c'est le souverain sacrificateur. Ça, c'est les habits du sacrificateur. Un magnifique vêtements. On voit dans Exode 28 rapidement les habits du souverain sacrificateur. Il nous faudrait plus de temps, mais peu importe tant qu'on voit ça et que le Seigneur continue de nous guider. En général, une ceinture au niveau de la taille, on la remonte pas jusqu'à la poitrine. Mais c'est vraiment une ceinture sur la poitrine pour parce que ça signifie l'amour. Ça montre qu'il aime et il prend soin des églises avec un amour divin. Comment est-ce que tu aimes l'Église? Avons besoin de son amour. Pas avec un amour humain. On continue. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il faut retourner dans Daniel pour le voir. C'est la même révélation. Avec les cheveux comme de la laine blanche. Mes cheveux sont blancs, mais ils ne ressemblent pas à de la laine. C'est juste parce que je suis vieux. Je suis pas ancien, mais je suis très vieux. Suis pas comme Chuchang qui a les cheveux noirs. J'avais les cheveux noirs aussi. Mais maintenant, je suis comme George. C'est parce que je suis vieux. Mais un agneau avec de la laine, il est né blanc. C'est sa nature. C'est pas parce qu'il est ni vieux. Mais c'est la nature. C'est pas une question d'âge, mais une question de pureté. La neige vient d'où? Elle vient de dessus. Des cieux. Elle est céleste. rempli de sagesse céleste. Mais maintenant, les gens disent, oh, les cheveux gris ou blancs, c'est un signe de sagesse. C'est pas vrai. C'est moitié vrai. Seulement si tu marches dans la justice, c'est vrai. Tu regardes dans Proverbe. La première partie est vraie, mais pas la deuxième. Non, j'ai vu beaucoup de gens avec des cheveux blancs qui n'étaient pas du tout sages, en m'incluant dedans. Mais Seigneur n'est pas vieux. Moi, j'ai des cheveux blancs et plein de rides. Mais Éphésiens 5 dit sans tache ni ride. Est-ce que tu es exempt de taches et de rides? Non, ça veut dire que tu es vieux, comme moi. Mais pas notre Seigneur. Ta sagesse est céleste. C'est pour ça qu'il dit, oh, la sagesse de Dieu. La profondeur de sa sagesse. Regarde juste la manière dont il t'a créé. C'est un design magnifique. Si t'avais un nez plus long, tu serais pas beau. Si t'avais des longues oreilles comme un lapin, ça irait pas. Si tu regardes juste comment Dieu a créé l'homme à son image, je prie toujours, Dieu, Seigneur, tu es plein de sagesse. Est-ce que tu aimerais une main avec 8 doigts? Est-ce que ce serait pas mieux? Qu'en est-il si on avait 5 pouces? T'as déjà remarqué que la longueur de ton doigt correspond à la longueur de ta paume? Tout est tellement équilibré. Tu es parfaitement créé. Qu'en est-il d'avoir un œil devant et un œil derrière? Est-ce que tu ne voudrais pas une vision panoramique? Dieu est plein de sagesse. Il sait le futur, il sait le passé. C'est pour ça qu'il a déjà résolu tous les problèmes. Avant la fondation du monde, l'agneau était déjà préparé. C'est pour ça. Y a déjà la solution. C'est la sagesse de Dieu. Il est un Dieu sage. Il ne croit pas être plus sage que Dieu. Tes yeux étaient comme une flamme de feu. Qu'en est-il de tes yeux?
Sans lunettes. Je regarde comme ça, je vois rien. Les gens rigolent toujours dans mes yeux parce qu'ils sont tellement petits. Certaines personnes me demandent, John, est-ce que tu vois encore quand tu rigoles? Ne crois pas que si je rigole, je te vois plus. Mais ses yeux sont comme une flamme de feu. Il a une vision qui transperce. Il est celui qui sonde les cœurs. Il voit tout. Rien n'est caché devant lui. Comme une flamme de feu. Et non seulement il voit, mais la flamme brûle aussi. C'est pas simple. Quand le Seigneur voit, il juge aussi. C'est pas juste qu'il voit et il s'en fiche. Souvent, dans l'église, on voit, mais on s'en fiche. On a peur de faire la chose qui est juste. Tu vois un problème et tu dis, oulala, là là, il y a un problème, il y a un problème, faut pas le toucher. As-tu déjà vu une flamme de feu qui te brûle aussi? C'est pourquoi ne cache rien de Dieu. Ne cache pas, c'est insensé. Dans tous les cas, il le sait déjà. Est-ce que vraiment tu veux essayer de cacher quelque chose à celui qui voit tout? C'est vraiment insensé. Mais son feu n'est pas pour te brûler et te tuer, mais pour te guérir. C'est une lumière pour guérir, pas pour tuer. Donc quand le Seigneur expose par sa parole, n'aie pas peur. Quand il t'expose, il veut te guérir. Ne lui cache pas des choses. Ne joue pas à cache-cache avec Dieu. Il n'a pas besoin de chercher. C'est cache et cherche en anglais. Tu viens là, il est là. Tu vas au fond des océans, il est là. Tu veux te cacher dans les cieux, il est encore là. Ne te cache pas, c'est insensé. Mais demande, Seigneur, guéris-moi. Peu importe ce que tu vois en moi, guéris-moi. Seigneur Jésus. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ça, c'est vraiment jugement. Ses yeux guérissent alors que ses pieds jugent. Il juge tous ses ennemis. C'est pas une guérison d'être sous ses pieds, c'est le jugement. L'airain dans la parole signifie le jugement. Dieu juge parce qu'il aime, alors que nous, on juge parce qu'on n'aime pas. J'aime pas ci, j'aime pas ça. C'est ton jugement. C'est pas de l'airain ardent. C'est pas de l'airain affiné. Mais là, il a été affiné. Embrasé ou raffiné dans une fournaise. C'est pour ça que son jugement est toujours juste et droit.
Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. On aime toujours entendre des paroles douces et gentilles. Est-ce que tu aimes quand quelqu'un te critique? T'es content? Quelqu'un critique ton fils. C'est quoi son nom? Enoch. Enoch marche avec Dieu. Regardez, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Quand tu dis quelque chose, il dit non. Un petit enfant, Enoch. Mais sa voix est majestueuse. Il y a de l'autorité dans sa parole. Pas des mots vains. Nous, on dit beaucoup de mots vides et vains. Mais c'était comme le son de grandes eaux. Et dans sa main était cette étoile, sa main droite. Ce sont les messagers des églises. Ne crois pas que ce soit une position de servir comme frère dans l'église. C'est pas une position. On n'est pas appelé les frères responsables. Les frères ne voulaient pas s'appeler les anciens. Alors ils ont préféré se faire appeler les responsables. Mais en fait, ils sont irresponsables. Ils amènent de fausses choses au sein. Si tu es un tel frère, alors tu es irresponsable. On a besoin d'être ces étoiles dans la main droite de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui les tient. Les étoiles sont où normalement? Elles sont dans le ciel. Il n'y a que les fausses qui sont tombées sur la terre. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Pour les ennemis, c'est la mort. Comme dans l'Apocalypse 19. Avec cette épée qui sort de sa bouche, il détruit tous ses ennemis. Mais là, dans je ne sais plus quel livre, chapitre 4, au contraire, c'est comme un chirurgien. C'est pour exposer les intentions du cœur, pour pouvoir guérir. Et sortir ce qui n'est pas censé être là. Si j'ai un cancer, j'ai besoin d'un scalpel. N'est-ce pas? Sinon, je dois passer par une chimio. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Est-ce qu'on a déjà vu un souverain sacrificateur aussi glorieux qui marche à notre milieu? Je vais m'arrêter là. Mais lisez-le en priant. Alors vous, pour pouvoir comprendre et demander au Seigneur, je vais te connaître comme cette personne. Pas juste comme mon sauveur, mais je veux te connaître comme ce souverain sacrificateur pour pouvoir garder et servir dans ce sacerdoce. On a besoin de le respecter et de voir ce souverain sacrificateur qui marche en notre milieu, dans notre vie quotidienne, parce que nous sommes sacrificateurs avec lui. Et un sacrificateur doit être saint et pas mélangé avec tellement de choses. Quand je le vis, tombé à ses pieds comme mort. On est tellement reconnaissant quand on le voit en tant que celui qui est mort sur la croix. Merci Seigneur, t'es mort pour moi. Mais là, en le voyant de cette manière-là, Jean est tombé comme mort à ses pieds. Ce Christ mentionné là est exactement l'opposé de l'agneau de Dieu mentionné dans Jean. Voici l'agneau de Dieu qui sauve le monde de ses péchés. Mais là, il est majestueux, brûlant. J'ai même pas de mots pour le décrire. Ce magnifique Christ. Jean, en le voyant, est tombé comme mort à ses pieds, parce qu'il était tellement différent du Christ qu'il a vu à l'époque de l'Évangile. On a tous besoin de voir un tel Christ pour vraiment avoir la crainte de l'Éternel, une véritable crainte de l'Éternel. Oui, le Seigneur, je m'arrête là. On peut avoir quelques prières encore et un peu de communion. Peut y avoir quelques prières.